autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, pour nous interroger sur l'essor des neurosciences cognitives. Pourquoi un tel engouement pour ces sciences du cerveau? Comment sont-elles devenues le baromètre de nos conduites et de nos vies? Qu'est-ce que ça dit de nous, de nos comportements, de nos idéaux et de nos transformations? En cette période d'incertitude dans nos sociétés individualistes, où la performance est de rigueur, pourquoi en sommes-nous venus à penser que les réponses à nos maux psychiques, à nos difficultés, aux vicissitudes de l'existence, que ces réponses viendront de notre cerveau et de sa formidable plasticité révélée par les neurosciences. L'homme neuronal est-il en train de remplacer l'homme social? Voilà quelques-unes des questions soulevées par notre invité, le sociologue Alain Ehrenberg, dans son dernier essai autour de la question « Pourquoi les neurosciences sont partout ?» Bienvenue. Bonjour Alain Ehrenberg.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur remarquable et remarqué de deux essais qui ont fait date, La fatigue d'être soi et la société du malaise. Vous continuez d'enfoncer le clou, si j'ose dire, de vos recherches sur les transformations de l'individualisme dans nos sociétés avec un nouvel essai qui vient de paraître chez Odile Jacob, La mécanique des passions, sous-titré Cerveau, comportement, société. Vous partez d'un constat, Alain Ehrenberg, sur la place qu'ont pris les neurosciences dans la recherche comme dans tous les domaines de nos vies, leur impact, les neurosciences sont partout, et le sociologue que vous êtes se demande au fond pourquoi et surtout qu'est-ce que ça dit de nous, c'est ça?
Oui, mon point de départ, c'est le constat que, au fond, les neurosciences font l'objet d'un engouement qui était celui dont la psychanalyse était gratifiée ou qu'elle avait accordé à la psychanalyse il y a encore pas si longtemps, disons 30 à 40 ans. Et ces deux disciplines s'articulent d'une certaine manière parce que les neurosciences cognitives pensent être au XXIe siècle ce que la psychanalyse a été
pour le XXe siècle.
Voilà, au XXe. Mais en même temps, ce sont des disciplines qui ne sont... Là, ce sont des types de sciences totalement différentes. Elles se sont développées à des moments aussi différents. Et ce qui a changé entre l'engouement pour la psychanalyse et l'engouement pour les neurosciences cognitives, c'est aussi un changement de société. Un changement de société, et disons que je résume cela en donnant les deux centres, les deux questions ou les deux propositions de la psychanalyse et des neurosciences. Disons que la psychanalyse confronte l'homme à ses limites et à ses manques, hein, en lui faisant voir ce qu'il ne veut pas voir, en quelque sorte, hein, alors que les neurosciences cognitives, elles, invitent l'homme à dépasser ses limites. Et effectivement, nous sommes rentrés, la psychanalyse se développe dans une société qui est encore une société, disons, d'interdit, en tout cas de limitation, hein, et où je dirais que la question qui se pose à chacun, c'est que m'est-il permis de faire, hein, en quelque sorte, hein, c'est la névrose au sens de Freud. Alors que les neurosciences se développent dans une société de dépassement de soi, hein, où on invite les gens, et c'est pas une mauvaise chose, hein. c'est une morale de l'ambition.
À se dépasser. Et les neurosciences, vous dites quoi? Elles servent, enfin les recherches existent,
oui,
mais elles servent en quelque sorte ce propos-là, cette invitation au dépassement de nos sociétés.
Oui, le grand message des neurosciences cognitives, c'est que le cerveau dispose toujours de ressources pour que l'individu puisse se sortir de toutes les situations, de potentiels cachés qu'on peut mettre en avant et à partir duquel il pourra se sortir de tout. Alors, ça ne veut pas dire que la psychanalyse, elle limite, mais elle a une autre approche de des problèmes psychologiques, des difficultés comportementales, des soucis, des maladies de la vie, au fond, qui sont tous ces problèmes-là.
Hein. Que l'on va tous peut-être plus ou moins traversées. Et il faut préciser aussi qu'il n'est pas question de dire, alors qu'aujourd'hui ces deux manières de voir ou ces deux disciplines se confrontent, d'être pour ou contre. C'est un constat que vous faites en tant que sociologue sur nos transformations à travers l'impact des neurosciences aujourd'hui.
Oui, parce qu'au fond, le message des neurosciences, il se passe dans une société, au fond, je dis que nous sommes rentrés dans une société qui est imprégnée par les idéaux d'autonomie, un individualisme de capacité, c'est-à-dire nous avons la liberté de choix. Donc,
qu'est-ce qu'on fait avec cette liberté de choix?
Agir, décider, une société d'initiative individuelle où il faut être proactif dans proactif dans le travail. C'est pas du tout comme le système taylorien fordien qui exige plutôt, disons, une discipline mécanique, etc., etc. Donc nous sommes dans un système, une société, disons, où les attentes collectives à l'égard de l'autonomie individuelle sont très fortes, et bon, les neurosciences apportent des réponses à ça. Alors après, il faut évaluer ces réponses, etc. Mais c'est là que ça se situe, je pense. C'est-à-dire, mon idée, c'est que les résultats scientifiques ne suffisent pas. Les résultats scientifiques ne suffisent pas. Il faut que ça rencontre. On n'est pas dans la physique théorique, là. On est dans des sciences du comportement, donc ça intéresse des masses de gens. Il faut que ça rencontre des idéaux sociaux majeurs.
Voilà. Alors, quels idéaux sociaux majeurs, justement, rencontrent ces sciences du cerveau pour expliquer leur essor? Je vous propose d'écouter un extrait d'un film, Les étonnants pouvoirs du cerveau. C'est une enquête du psychiatre canadien Norman Doidge, diffusée en 2013 déjà sur la chaîne Arte. On l'écoute et vous réagirez ensuite.
Je suis ici pour décrire le plus grand bouleversement survenu dans notre conception du cerveau depuis 400 ans. C'est une idée révolutionnaire. La neuroplasticité change tout. Le cerveau n'est pas une machine. Il est doué d'une vie propre.
Nous avons entre les mains un pouvoir incroyable qui nous permet de changer notre cerveau, qui explique notre comportement, qui est l'essence même de ce que nous sommes. C'est merveilleux.
Le concept de plasticité cérébrale est déjà apparu fugacement par le passé, avant de disparaître. On commence tout juste à l'établir comme une réalité scientifique. Mais ces brèves apparitions ont laissé des traces et permis une certaine réceptivité à cette idée. J'en suis venu à penser que les capacités de transformation du cerveau ont des répercussions sur chacun de nous, sans parler de notre culture, de notre apprentissage et de notre histoire. Le cerveau que j'ai découvert au cours de mon enquête s'avère à la fois plus résilient et plus vulnérable que ce qu'on imaginait. Le fait qu'il soit plus résilient suscite un espoir immense pour ceux qui souffrent de problèmes cérébraux et psychologiques.
Les étonnants pouvoirs du cerveau, dans ce film, on entend un mot, plasticité du cerveau.
Oui, c'est un concept biologique et en même temps un concept qui, par ses extensions, est devenu un concept social où on ne peut plus séparer les choses. Alors, je vais reprendre. Mm-hmm. Là, ce qu'on a entendu, c'est le grand message dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a toujours des ressources, etc. Et c'est le concept biologique de plasticité qui rend compte de ça. C'est-à-dire le fait que, évidemment, tout ce qui nous arrive doit trouver une inscription cérébrale, parce qu'on a un corps, n'est-ce pas? Et donc avec des mécanismes cérébraux.
Et tout ce qui nous arrive modifie, fait évoluer notre cerveau et donc nous-mêmes. Donc nous évoluons au cours de notre vie.
Voilà. Et donc la plasticité cérébrale, au fond, c'est ça. Moi, mon idée, c'est qu'il y a une rencontre entre cet idéal majeur de la société de l'autonomie comme condition, qui est l'idéal du potentiel caché, je le définis en une minute, c'est l'idée que, quelles que soient les difficultés, les problèmes que vous avez, vous pouvez, malgré le mal, avoir des accomplissements et peut-être plus encore grâce à lui, hein, et là on reviendra peut-être là-dessus plus tard, c'est l'autiste de haut niveau qui incarne cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des handicaps majeurs et des atouts majeurs.
C'est donc un ça, bel c'est, idéal, ça, c'est un bel même, idéal, que de dire quoi que l'on
absolument.
Est, quoi que l'on traverse,
absolument.
on peut s'en sortir.
Absolument. C'est quelque chose qui est présent, disons, dès les débuts de la modernité démocratique, mais qui explose à partir des années 60-70, avec toutes les dynamiques libérales de diversité des formes de vie dans les années 60, et c'est la forme, moi je dis que l'idéal du potentiel caché est la forme sociale par lesquelles des populations classées comme déviantes, folles, handicapées, etc., qui étaient dans des institutions closes, que le sociologue Erving Goffman avait appelé en 1960 les institutions totales, et, ont pu commencer à connaître des accomplissements, mais aussi commencer à être traitées en ambulatoire et avoir une vie réelle. Donc ça, c'est l'idéal social. La plasticité est en quelque sorte la transfiguration dans un concept biologique de cet idéal social.
Parce que elle vient confirmer en fait ce que l'on voudrait
on aura une base biologique nous permettant au fond de nous refaire nous-mêmes en permanence. Mais c'est un fantasme. Pourquoi ? Parce que ce qu'a raconté ce monsieur, il a raconté n'importe quoi sur la plasticité. Parce que la plasticité, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir se changer en permanence toute notre vie. Bien sûr, c'est un élément qui permet d'ancrer dans la biologie nos capacités à nous transformer personnellement, mais c'est beaucoup plus limité que ça. La plasticité, ça veut dire que la nature n'a pas organisé notre cerveau dès le début avec des spécialisations régionales qui ont telle ou telle fonction et que ça se fait au cours de l'histoire du sujet.
C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'on en rajoute, on va bien au-delà, on en rajoute. Au fond, de ce que nous disent les neurosciences sur le fonctionnement du cerveau.
Absolument. Enfin, sur ce plan-là. Hein. Mais en même temps, ça alimente un optimisme de l'action. Un optimisme de l'action qu'on pourra, et qui est extrêmement important dans une société où les contingences sont partout, avec la globalisation, le travail flexible, le démariage, le divorce, les changements, etc.
Les contingences, c'est partout. Il n'y a plus rien de sûr, sauf le fait que...
Voilà.
Que sauf
et donc, ça nous donne un appui certifiant que, au fond, les choses sont entre les mains de l'individu. Et donc, pour une société qui valorise l'autonomie à ce point-là, évidemment, ça donne un poids qui n'est pas un poids moral que vous avez changé, mais un poids scientifique. Ce sont les valeurs de clarté, de rigueur, de démonstration de la science. Mais les choses qui sont dites dans les médias, etc., partout, c'est pas tout à fait ça. Il y a plusieurs, d'ailleurs, conceptions, plusieurs plasticités, chez les neuroscientifiques. Par exemple, vous avez la plasticité classique, qui est chez les neurologues, quand vous avez une lésion, qui vous enlève une fonction, disons, pour parler caricaturalement,
ça peut être
des compensations fonctionnelles. Ça s'appelle la vicariance. C'est un mot technique, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, ça désigne des choses assez précises, mais il y a un emploi qui est totalement extensif. Et on voit même d'ailleurs des pédagogues dire que apprendre, c'est augmenter ses connexions neuronales. Vous voyez, donc. Voilà.
Jusqu'où irons-nous avec cet essor, cet engouement pour les sciences du cerveau? Est-ce aussi peut-être parce qu'on a un petit peu le cerveau ramolli? On écoute Lisa Leblanc sur RFI, le cerveau ramolli.
Autour de la question.
Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. Je lis des livres, je regarde la TV, puis des films en jogging. Tellement plus rien. Je me couche à 9h, je me lève de bonne heure. Pour aucune raison spécifique, je suis rendu plate à mourir. Je file mon cerveau ramollir. Je suis rendu plate à mourir. Je file mon cerveau ramollir. Je vais pas la maison, c'est pour aller travailler. Tellement plus rien.
Ramolli, Lisa Leblanc, qui pourtant a beaucoup d'énergie sur RFI, à Ehrenberg.
Oui, Siavo Ramolli, ça veut dire manque d'énergie, ce dont nous avons évidemment le plus besoin dans le type de société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire une société qui a à la fois beaucoup d'opportunités, mais en même temps de très fortes exigences, et ces opportunités impliquent en même temps qu'on soit capable de se contrôler émotionnellement, etc. Donc ça crée toutes sortes
de
tensions. Voilà.
De vivre aujourd'hui, vous aviez...
C'est la fatigue d'être soi,
c'est
si
ça,
vous voulez.
C'est ça, c'est la fatigue d'être soi, à titre d'un autre de vos
essais. On n'est toujours pas
à
la hauteur...
Autour de la question justement de la fatigue d'être soi et parallèlement de l'engouement pour les sciences du cerveau, nous sommes donc en votre compagnie. Alain Ehrenberg, vous êtes sociologue. Dans votre dernier essai, vous tentez d'analyser les ressorts de ce succès des sciences du cerveau. Écoutez ce qu'en pense un neuroscientifique que vous connaissez, Lionel Nakache. Il était récemment notre invité pour Parlez-vous cerveau. Tiens donc, son dernier essai, il a une question pour vous.
Alors d'abord un clin d'œil amical à Alain Ehrenberg que je salue, et j'aimerais te demander, Alain, dans ce rapport contemporain entre, d'un côté, on va dire, les neurosciences, les chercheurs en neurosciences et la société, est-ce que tu pourrais faire la part respective de l'engouement de la société pour les neurosciences qui provient de la société, de celles qui proviendraient des neuroscientifiques qui pourraient faire valoir leurs connaissances auprès de la société? Autrement dit, dans ces mécanismes sociaux complexes, qu'est-ce qui vient du goût primitif, on pourrait dire, ou primitif au sens premier, de la société pour les neurosciences versus des neuroscientifiques qui voudraient, par des mécanismes de puissance ou autres, délimiter ou augmenter leur valeur auprès de la société?
Comment répondre à Lionel Nakache?
Merci Lionel pour ta question. Donc la différence entre Lionel et moi, c'est que Lionel aime le cerveau et moi, j'aime la sociologie. Mais on peut parfaitement
se parler et s'entendre.
Absolument. Ce qui vient
Parce
de la société.
Vous n'êtes pas, je rappelle juste, vous n'êtes pas contre les neurosciences ou contre la psychanalyse ni pour.
J'aborde les neurosciences comme la psychanalyse, comme la dépression, comme des phénomènes sociaux. Et un phénomène social, la base du métier, c'est qu'il n'est ni vrai ni faux. Ça n'empêche pas de faire des évaluations, mais on commence par ça.
Ni vrai ni faux, et comment faire la part des choses entre justement
les
chercheurs, le rôle des neuroscientifiques et notre appétence.
Bon, beaucoup de chercheurs vendent un peu évidemment leur produit, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse toujours faire... il y aurait un travail, disons, de régulation éthique
sur les découvertes,
les découvertes,
avancées.
Comme ça, apporter des nuances, informer réellement le public et pas simplement, lui fournir des machines à fantasmes. Mais ce que je dirais plutôt que... est-ce qu'on peut faire la part entre les chercheurs d'un côté séparés et la société de l'autre? Moi, je dis non. Tout s'intrique. Tout s'intrique, c'est-à-dire les chercheurs sont dans la société, les idées proviennent des idées communes qui sont là, c'est-à-dire au fond, ce qu'on a du mal à comprendre dans nos sociétés, c'est le pouvoir actif des idées. C'est-à-dire les idées ne sont pas au-dessus de... Les idées, les idéaux, etc. ne sont pas au-dessus de nos têtes, elles sont en nous, elles passent par, tout simplement par le langage, la façon dont...
Elles disent notre sensibilité commune, c'est ça ?
Voilà, absolument. Et donc là, il y a une sorte d'intrication entre la façon dont parlent les chercheurs, les idées sociales et leurs concepts scientifiques. Alors là, à partir de là, vous pouvez avoir toutes les variations, comme sur la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, au fond, elle fait c'est ce que j'explique d'ailleurs dans un chapitre sur l'histoire de la physiologie du cerveau sur les 50 dernières années. C'est une physiologie de l'autonomie, en quelque sorte, qui s'est développée. Et ce que les chercheurs ont montré sur les 50 dernières années, parce qu'on connaissait assez peu de choses en 1950, on connaissait par exemple qu'une moitié de cerveau, etc., c'est que c'est un cerveau qui se déclenche, dont les mécanismes se déclenchent de lui-même, sans intervention du monde extérieur, et à partir de là, ce qu'on a fait du cerveau, c'est une sorte de cerveau individu. C'est-à-dire, au fond, vous ne savez pas, quand un certain nombre de chercheurs parle du cerveau, de la plasticité cérébrale, s'ils parlent au fond du cerveau ou de l'individu.
C'est ça. Ils parlent aussi du cerveau, les chercheurs, souvent, en disant le cerveau, c'est l'organe le plus complexe de l'univers.
Alors voilà.
Votre formule sur laquelle vous revenez.
Oui, c'est ce que j'explique dans l'introduction, c'est qu'au fond, j'ai une approche ethnologique, c'est-à-dire je considère que les neuroscientifiques, mais les psychologues cognitifs, comportementaux, etc., parce que c'est l'ensemble, c'est les sciences cognitives comportementales et les neurosciences, forme une sorte de société ou de tribu, et j'essaye de comprendre la cohérence de ce qu'ils racontent, les raisons de ce qu'ils avancent. Hein.
Et l'écho que ça a du coup dans la société.
Cette société ou cette tribu, qui est très, très importante, a deux mantras. Le premier, c'est « le cerveau est l'objet le plus complexe de l'univers ». Et le deuxième, c'est « nous n'en sommes qu'au début ». Au début des recherches, des résultats, des futurs résultats et retombées thérapeutiques pour les patients, etc. Donc, à partir de la plus grande complexité de l'existence, et d'autre part, le début, vous pouvez ouvrir de multiples espoirs.
C'est-à-dire que ces deux mantras, comme vous dites, ne sont pas faux, mais soulèvent des promesses.
Alors, je ne sais pas si c'est l'objet le plus complexe de l'univers, que ça soit d'une extrême complexité, j'accorde tout ce qu'on veut de ce côté-là. Pardon, je vous ai...
Mais en même temps, ce qu'on se dit par rapport à ça, c'est qu'à la fois c'est vrai, et à la fois ça suscite des promesses, ou comme vous dites, des fantasmes, ou des attentes qui ne pourront pas être nourries, finalement. On en est quand même dans le fantasme, là, encore. Un peu comme dans l'intelligence artificielle,
oui.
Peut-être.
Alors il y a des liens évidemment cerveau-intelligence artificielle, je pense que je consacre quelques pages à ça, c'est une des lignes évidemment de développement très important à l'avenir, autour aussi de la robotique sociale, pour l'autisme par exemple, etc. Bon. Votre question, pardon, je suis...
Ma question, elle était, est-ce que justement c'est du fantasme ou c'est de la réalité, ou c'est les deux en même temps? C'est-à-dire que c'est une réalité sur laquelle travaille cette tribu de psychologues cognitifs, de neuroscientifiques, mais en même temps, ça suscite quoi? Des fantasmes dans notre société qui est en attente de ça?
Oui, ça suscite des fantasmes, mais je dirais que ça suscite les fantasmes. Mais bon, en même temps, il faut relativiser tout ça. C'est-à-dire, en fait, ce sont des idées qui sont partout. Ce sont les idées les plus ordinaires. Ce sont celles que vous trouvez, par exemple, dans le développement personnel, qui reposent entièrement sur cette question-là. Donc, ce sont nos idéaux ordinaires qui sont alimentés sur une base donc scientifique qui est plus forte, je dirais, que la morale ou que les injonctions sociales. C'est-à-dire, c'est supposé vous donner une certitude, mais dans la réalité, bien entendu, ça a beaucoup de limites, parce que là, il faut voir qu'est-ce qui se passe du côté des prises en charge, des thérapies. Nous avons assez peu d'enquêtes sur les patients ou les personnes ayant tel ou tel type de pratique. On pourra peut-être y revenir
pour ça, est-ce que ça marche tout à l'heure,
mais il y a en tout cas, ce qu'on peut savoir déjà, c'est qu'il y a un certain décalage entre, disons, le débat, enfin le débat un peu caricatural, ce que j'ai appelé en ce qui concerne la France les guerres du sujet, c'est-à-dire les affrontements entre les partisans du sujet parlant et socialisé, donc plutôt du côté de la psychanalyse, et les partisans du sujet cérébral, plutôt du côté des neurosciences cognitives.
Il y a un décalage entre ça et la réalité quotidienne
que vivent les gens.
À propos de décalage, je propose de continuer à nous interroger en écoutant un artiste, compositeur, poète et dramaturge très décalé, au cerveau peu ordinaire, Jacques Robotier, qui nous fait sa chanson du cerveau. Accrochez-vous, ça peut faire un peu mal entre les deux oreilles.
Mon cerveau est très beau, ta cervelle est très belle, notre cervelet
nous a beaucoup déçus.
Troisième couplet.
Deuxième.
Enfin, vous voulez le deuxième avant le troisième, d'accord.
Monsieur et madame, Joseph Servo-Cervelle ont vécu de bien dégoulinantes façons. Ils ont maintenant deux enfants, Cervelin et Cervelet.
Nous voilà dans le cerveau, la chanson du cerveau, façon poète, dramaturge, Jacques Robotier. Est-ce que ça vous parle, Alain Ehrenberg?
Pas tellement. Enfin, je trouve amusant de glisser du cerveau, de la cervelle, au cervelat. Le cervelat, qui est une nourriture que j'aime beaucoup, mais bon...
Le sociologue que vous êtes, en tout cas, s'intéresse à nos mœurs et à nos comportements sociaux. Vous vous demandez aussi, dans cet essai, si l'homme neuronal n'est pas en train de remplacer l'homme social. Question ouverte donc dans votre livre, qui interroge aussi un autre chercheur, professeur de génétique et de génomique du développement. Denis Duboul vient d'être nommé professeur au Collège de France sur la nouvelle chaire internationale d'évolution du génome et du développement. Et il y a une question pour vous.
Je me demandais si l'homme social n'a pas déjà disparu avec tous ces réseaux sociaux, avec ce narcissisme constant, ces images de soi. Si, en fait, si le selfie n'est pas le signe de la disparition de l'homme social.
Votre réponse, Alain Ehrenberg.
Alors, il faut rentrer dans le... Parce que le social ici, il faut aller au-delà des mots, donc. Est-ce que le selfie est la direction de l'homme social ? Il y a cette idée que, au fond, il y a une confusion qui est assez constante dans les sociétés individualistes, c'est la confusion entre individuel et individualisme. Et là, je pense que nous avons un exemple, c'est-à-dire que l'individuel est quelque chose qui renvoie à personnel, mais l'individualisme, c'est un esprit social.
Nous
sommes des sociétés individualistes parce que toutes les sociétés lignagères, hiérarchiques, etc., font une place à l'individu. Elles sont toutes préoccupées par ça. Mais seule notre société peut être qualifiée, ou nos sociétés modernes, démocratiques, etc., mais pas seulement occidentales aujourd'hui, évidemment, peuvent être qualifiées de sociétés individualistes. Donc ça décrit des formes sociales fondées sur la liberté de l'individu, etc. Donc c'est un esprit commun, en réalité, l'individualisme. Mais la confusion est constante entre individuel et individualiste. Donc l'homme social ne peut pas disparaître. En revanche, les formes sociales peuvent évoluer. La façon de faire société, par exemple en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne et aux États-Unis, il y a plein d'éléments communs, mais il y a plein d'éléments aussi de petites variations qui font tous les malentendus entre les sociétés, etc., etc. C'est quoi le social ? C'est le fait que c'est un niveau de réalité qui tient au fait que les hommes vivent ensemble. Et donc le social, c'est des questions comme qui peut faire des enfants à qui peut donner à qui, etc.
Donc ça perdure et ça ne peut pas changer. Par contre, ça prend des formes différentes aujourd'hui. Et cet impact des neurosciences, aussi ce côté homme capable, actif, dans nos sociétés de la performance, ça joue aussi beaucoup. Ça en rajoute, si j'ose dire, à votre moulin, sur l'impact des neurosciences et sur cet homme neuronal, cerveau, plastique, qui est en train d'envahir notre imaginaire ou notre réalité.
Enfin, ça envahit nos idées communes, mais ça ne veut pas dire que ça a toute la place. Nos sociétés sont pleines de courants aussi contradictoires. Donc, voilà, il ne faut pas non plus
Il y a place pour beaucoup de choses, qu'on ne pense dans nos sociétés.
Et l'homme neural est un homme social. Enfin, l'homme neuronal, c'est le titre du livre de Jean-Pierre Changeux, et c'est une thématique ou un discours qui est tenu par les plus radicaux des neuroscientifiques, ce que j'appelle les partisans du programme fort, pour lesquels l'ensemble des comportements s'explique sur une base cérébrale. Mais c'est une vision qui est parfaitement sociale, sous un vocabulaire qui est scientifique.
Aujourd'hui, dans nos sociétés, donc on l'a bien compris, individualiste, et dans la sociologie et dans votre sociologie, Alain Ehrenberg, notre individualisme contemporain, vous avez dit au cours de cette émission, et vous le dites dans cet essai, qu'il y a une figure qui émerge, c'est celle de l'autiste de haut niveau, très intelligent, mais au cerveau différent du nôtre. Avant de vous laisser développer, je vous propose d'écouter Daniel Tammet, précisément. Alors lui, c'est un autiste qu'on peut qualifier de génial, écrivain, poète, mathématicien, hyper polyglotte et synesthète. Il est atteint du syndrome d'Asperger. Nous l'avions reçu ici même, au studio 42 sur RFI. Vous verrez ça à son importance. Pour l'auteur de la poésie des nombres, l'éternité dans une heure, et chaque mot est un oiseau auquel on apprend à chanter. Comment faire passer ses émotions quand on est censé, en tant qu'autiste de haut niveau, ne pas en avoir ? On écoute Daniel Tammet.
C'est une idée fausse. Les émotions sont très présentes en tous mes livres, dans tout ce que je fais. Pourquoi ? Parce que l'émotion, c'est quelque chose que je vis peut-être un peu différemment. En tout cas, c'est quelque chose... Le cerveau, mon cerveau, a un parcours singulier. C'est vrai, les connexions ont évolué différemment. Et puis, quand je vois les nombres, les mots également... Je vois des couleurs, les émotions, peut-être de la même manière que quand on voit un visage d'habitude, un visage connu d'un ami ou de quelqu'un qu'on aime, on a ces émotions-là tout de suite qui surgissent. Pour moi, quand je vois un mot que j'adore ou un chiffre, j'ai ces émotions-là, c'est comme un vieil ami.
Puisque vous voyez... des choses, vous sentez des choses dans les nombres. Ici, nous sommes à Issy-les-Moulineaux, au studio 42. Mmh. Je crois que le 4, c'est votre chiffre favori. 42, oui. 4, 2, ce serait quoi ?
Alors 4, c'est un ami pour moi d'enfance, puisque pour moi, je me sens un peu comme le 4. 4, c'est timide. C'est un nombre timide, c'est un chiffre timide.
C'est donc, un nombre timide, 4.
Oui, c'est un chiffre timide. Mmh. Et donc, pour moi, puisque je suis un peu timide, et surtout enfant, j'étais extrêmement timide, donc je me suis dit, mais je suis comme le 4. Et puis le 2, c'est plus comme le vent, une brise qui bouge, qui effleure les arbres, le printemps. Donc, c'est un chiffre assez poétique. Donc, la combinaison des deux est très... très agréable pour moi.
Très agréable pour nous aussi en direct depuis ce même studio 42 avec vous, Alain Renberg. Donc on a entendu Daniel Tammet, synesthète, hein, nous expliquer les correspondances qu'il fait entre les couleurs, les nombres, les formes, les choses. C'est un autre cerveau que le nôtre et c'est un cerveau exemplaire aujourd'hui
Alors, c'est un cerveau exemplaire, oui, le cerveau de l'autiste de haut niveau. Enfin, l'autiste de haut niveau, il faut, pour identifier ce dont nous avons parlé au cours de cette émission, il faut une figure sociale qui permette aux gens de se repérer et de comprendre. Et c'est l'autiste de haut niveau qui s'est imposé et c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que l'autisme est sorti des fins fonds de l'arriération mentale pour occuper une sorte de statut symbolique de super individu. Alors il faut quand même rappeler que 90% des personnes avec autisme
ne sont pas des super individus.
Mais quand même, ce qu'il faut dire, c'est que ça a changé la façon d'aborder les choses. C'est-à-dire qu'il y a des offres de prise en charge, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, mais de toutes sortes, et qui justement vont s'appuyer sur les atouts de ces personnes. Parce que ces personnes, en fait, comme on dit dans le milieu, justement, c'est aussi un symbole de la diversité, parce que quand vous connaissez, disent les autistes, quand vous connaissez un autiste, vous connaissez un autiste. Autrement dit, c'est une affirmation de la différence, de la singularité, de la grande diversité des êtres humains. Et l'autiste, en tant que figure sociale, est exactement au croisement du potentiel caché, hein, puisqu'il il peut s'accomplir non seulement malgré le mal qu'il atteint, mais plus encore grâce à lui. Moi, je prends dans un chapitre pour expliquer le cas de la première célèbre autiste au niveau qui s'appelle Temple Grandin, qui fait l'objet d'ailleurs d'un chapitre d'un livre d'Oliver Sacks. Oliver Sacks, c'est le grand conteur du potentiel caché. C'est un récit merveilleux. Ce sont des récits merveilleux, subtils. C'était un grand clinicien que je recommande de lire. Donc l'autiste au niveau, c'est le potentiel caché et la plasticité cérébrale, c'est-à-dire c'est un cerveau qui peut tout faire. Bon, lui, son cerveau, il a ses émotions à partir des chiffres. Temple Grandin, elle pense par image. Ses handicaps, c'est qu'elle se sent une étrangère à l'espèce humaine. Ça donne le titre du livre d'Oliver Sacks, Un anthropologue sur Mars. Mais elle se sent bien avec les animaux. Et elle est devenue... Et elle est rassurée, etc. Et elle est devenue une grande spécialiste mondiale des animaux, de l'éthologie. Et c'est là que vous voyez comment un élément est ressorti sur lequel elle pouvait s'appuyer, qui est devenu toute sa vie. Et là, le cerveau, son cerveau à elle, c'est pas justement la cervelle qu'on a entendue tout à l'heure à Sylvie, c'est une valeur de civilisation.
Mais c'est quand même très optimiste.
C'est ça le pouvoir artistique.
Oui, et c'est quand même quelque chose qui montre aussi dans l'évolution de nos sociétés, nos individus, de nos mentalités, de nos comportements, que la diversité peut venir à l'honneur, qu'effectivement on peut faire malgré son handicap, avec son handicap et au-delà. Il y a quand même là des valeurs, hein, sans parler, qui sont très belles.
Absolument.
Et qui sont les nôtres aujourd'hui.
Absolument.
Donc c'est un constat qui est assez mitigé.
Ça alimente tout ça, et ça alimente aussi toutes les pratiques pédagogiques, c'est-à-dire aujourd'hui la lutte contre les inégalités, la pauvreté, commencer à la petite enfance, jouer sur les atouts, etc. Donc on voit bien, c'est une ambiance générale qui a changé par rapport, disons, prenons l'année 1970, où les choses étaient totalement différentes. Oui, ça alimente tout ça.
Donc, vous décrivez, c'est que ça va dans les deux sens, en fait. Les recherches en neurosciences ou les pratiques de psychologie cognitive alimentent quelque chose qui est dans la société, le nourrissent, et en retour, c'est quand même quelque chose comme ça que vous montrez aussi,
oui,
à Ehrenberg.
Oui, c'est ça. Au fond, les neurosciences cognitives fournissent des figures de l'optimisme de l'action, et la psychanalyse, dans le contexte justement de la société de l'autonomie, de l'homme capable, etc., s'est déplacée d'Œdipe à Narcisse, et la figure de Narcisse, c'est plutôt, il nous a fourni une figure plus ambivalente, je dirais. La figure de Narcisse, c'est une figure de l'inquiétude. De l'inquiétude, justement, de la fragilisation des liens sociaux, de l'égoïsme individuel. Donc vous voyez, c'est pas les mêmes figures qui sont données.
On oscillerait entre les deux, cette période d'incertitude.
On a besoin de tout. Oui, parce que nous sommes aussi inquiets sur la sociabilité, sur tout ça. Donc, ces différentes figures, d'une certaine manière, elles n'ont ou aucun rapport l'une avec l'autre, ou éventuellement elles s'opposent, mais elles sont une complémentarité, parce que les besoins des sociétés humaines sont extrêmement variés, et nous avons besoin aussi de nous investir dans l'inquiétude et de nous éclairer avec des figures de l'inquiétude.
On prend tout sur RFI à l'écoute d'une sacrée tête en l'air, le formidable Jacques Higelin qui vient de nous quitter. Tête en l'air sur RFI.
Autour de la question.
Regretter Jacques Higelin sur RFI, tête en l'air, en compagnie du sociologue Alain Ehrenberg, qui s'interroge dans son dernier essai sur notre nouvel idéal social, véhiculé notamment par l'essor des sciences du cerveau, celui d'un individu capable de convertir ses handicaps en atouts en exploitant son potentiel caché. Mais comment faire? Comment libérer son potentiel caché? En quatre leçons, rien de plus simple, nous explique le coach Dominique Lepin sur YouTube, jechangemylife.com. Oui, vous avez bien entendu, jechangemylife.com. Écoutez, ça vaut le détour.
Vous souhaitez utiliser votre plein potentiel, mais par manque de volonté, de courage ou de motivation, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Le potentiel, c'est une sorte de boîte secrète qui contient deux choses très importantes. Ce que nous sommes capables de faire et ce que nous désirons faire, ce dont nous rêvons, nos désirs. Si l'on a la chance de pouvoir réunir les deux à la fois, c'est-à-dire ses aptitudes et ses désirs, dans un même projet de vie, on peut dire, sans se tromper, qu'on a trouvé sa vocation. Mais bien trop souvent, nos désirs restent au fond de notre petite boîte secrète. Et nous exploitons seulement ce que nous sommes capables de faire, ou pire, ce qu'on nous demande de faire. Et tout ce que nous rêvons vraiment de faire, tout ce potentiel de désir reste inexploité et se dessèche peu à peu au fond de nous. Et c'est comme ça qu'on a le sentiment de passer à côté de sa vie. Mais alors, comment faire pour changer ça? Comment faire pour libérer ce potentiel de désir, ce potentiel d'aspiration secrète qui changerait notre vie? Comment faire pour franchir les barrières de toutes sortes qui nous bloquent? Demandez-vous surtout si vous avez envie de ça. C'est la première clé de la boîte qui permettra de libérer ce potentiel. La deuxième clé de la boîte à potentiel, c'est le mot magique action. Lorsqu'on obtient des résultats, lorsqu'on repousse un peu ses limites, lorsqu'on rentre en action, lorsqu'on se distingue un peu des autres, eh bien on gagne en assurance et en confiance, mes amis. C'est ce qu'on peut appeler le cycle vertueux du potentiel. Action, résultat, confiance, potentiel plus.
Et voilà comment on en arrive au potentiel plus. Il y a évidemment pas mal de charlatanisme là-dedans, Alain Ehrenberg, mais c'est poussé à l'extrême, cet idéal du potentiel caché en chacun d'entre nous que nous avons à développer.
Oui, oui. Enfin, je ne sais pas quelles sont les propositions techniques de ce site
beaucoup,
pour changer sa life. Mais voilà, encore une fois, c'est le pouvoir actif des idées. Donc tout ça, ça c'est en permanence dans notre vie ordinaire. Ce sont ces idées qui nous alimentent, comme, je ne sais pas, dans les sociétés lignagères d'Afrique noire traditionnelle, bon, on est en permanence préoccupé par les ancêtres. Nous, on a d'autres types de préoccupations. Bon, voilà. Alors, est-ce que c'est sans doute sans conséquence, parce que c'est comme une sorte de bruit un peu sémantique, si vous voulez, qui nous
Mais vous, en tant que sociologue, c'est quand même ça qui vous intéresse de regarder. Vous avez intitulé votre essai, Alain Ehrenberg, « La mécanique des passions ». Pourquoi
oui.
ce titre?
Alors, bien sûr, il faut que j'explique évidemment le titre. Alors, « La mécanique des passions », c'est l'idée, au fond, qui est cristallisée, justement, dans la plasticité, c'est-à-dire que quand vous faites marcher vos circuits neuronaux, vous les entraînez par les formes d'entraînement, donc ça accroît les connexions neuronales et ça vous permet donc de changer d'habitude, etc. Mais en fait, c'est une vieille idée philosophique qui a une descendance dans toutes les psychologies scientifiques, c'est-à-dire du comportementalisme à partir de 1900 jusqu'aux neurosciences cognitives d'aujourd'hui. C'est une idée émise par la philosophie écossaise et notamment par David Hume, pour lequel, comme pour d'ailleurs d'autres philosophes, la raison ne peut rien contre les passions. Seule une passion peut transformer une autre passion. Une passion positive peut transformer une passion négative. Par quoi? Par des formes de pratiques qui font appel à l'accoutumance, à la répétition. C'est la répétition qui est l'idée centrale.
Dans notre corps, voilà. Et dans notre cerveau.
Et donc, comme l'explique Hume, c'est un principe de facilitation de l'action. Autrement dit, l'idée, enfin, le type de sujet des neurosciences cognitives ou le type d'individu, c'est un sujet pratique qui doit ajuster des moyens, des fins pour agir. Mais c'est pas quelqu'un qui s'interroge sur ses désirs, par exemple, comme ce serait le sujet de la psychanalyse.
Et du coup, vous parlez de ce philosophe écossais parce que aussi ces neurosciences, ces sciences du cerveau, ces sciences comportementalistes et cognitivistes, elles nous viennent quand même aussi des pays anglo-saxons. C'est peut-être pour ça que ça a polémique autant en France ou dans
Absolument.
Les pays latins.
Il y a une sensibilité, je dirais, libérale et empiriste, je vais expliquer ça tout de suite, qui sans doute explique en arrière-plan peut-être les polémiques françaises. Parce que ces philosophes...
Entre en gros psychanalystes et neuroscientifiques.
Pour aller vite, voilà. Ces philosophes comme David Hume, Adam Smith, se voient comme des Newtons de l'esprit. Pour Newton, c'est la régularité des phénomènes. Donc, pour c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au fond... Le naturaliste des neurosciences, c'est un naturaliste du fondement biologique. Mais derrière, il y a un autre naturalisme qui est précisément celui des empiristes écossais pour lesquels la nature, c'est la régularité. C'est d'abord la régularité. Et donc, toute la question, c'est comment... et surtout, c'est une société qui est la première à découvrir le capitalisme, la finance, etc. Et qui a la, on n'est pas dans le calcul rationnel du profit, etc. On est au début de ça. Donc, c'est de la crainte que la société va être débordée par les passions. Et donc, cette question de la conversion des passions, de la maîtrise des passions, est quelque chose de tout à fait fondamental. Donc,
voilà vous avez l'exercice, votre essai, la mécanique des passions.
Parce que c'est qui passe par le concept, disons, d'exercice. Alors. Et qui permet donc de maîtriser les passions. Bon, il y a d'autres aussi, évidemment, d'autres éléments pour maîtriser les passions, mais je pense que ça, c'est le fil, c'est en quelque sorte le fil conducteur, c'est l'idée très juste, hein, qu'on peut changer ses
plus
habitudes.
Plus on s'exerce, alors, plus manière, on peut faire changer les choses.
Et moi, je dis donc que ça renvoie à... Enfin, la psychanalyse ou les pratiques psychodynamiques plus ou moins inspirées par la psychanalyse et les pratiques inspirées par les sciences cognitives ou les neurosciences cognitives renvoient à deux grandes manières de refaire notre être moral dans les sociétés individualistes de masse. Les unes passant par la réflexivité, le sens de ce qui arrive dans les relations, l'interprétation des symptômes ou de ce qui arrive pour retrouver un pouvoir d'agir, et l'autre ensemble qui passe par des pratiques permettant de changer d'habitude. Alors ensuite, ça se décline dans la vie réelle de toutes sortes de manières. Ça peut être dans la plus grande opposition, comme dans des complémentarités avec des modalités multiples.
Donc vous vous dites au fond qu'il faut, et que d'ailleurs c'est ce que nous faisons dans nos sociétés, il faut utiliser le tout, les deux, laisser infuser, puisque c'est ce qui infuse dans notre imaginaire, dans notre réalité, dans nos laboratoires, et jusque dans les hôpitaux peut-être.
Alors il le faut, je ne sais pas, en tout cas ce sont les éléments que nous... Voilà, les deux grands ensembles que nous avons. Simplement, il n'y a pas de... Comment dire, on ne peut pas dire... Ce qu'il faut, c'est contextualiser en fonction du cas, selon les personnes, les moments de ces personnes. Eh bien, il faut aller de ce côté-là plutôt que de ce côté-là. Mais combien de fois j'ai vu, notamment, je pense par exemple des grands psychanalystes, je pense à Pierre Fédida qui est décédé il y a quelques années, qui écrivait il y a toujours un moment comportementaliste dans une analyse. Donc voilà, c'est-à-dire des conseils, des choses comme ça. Donc voilà,
arrêtons d'affronter ou de confronter. Alors,
très clairement, ce sont des paradigmes opposés. Mais, et donc il y a des conflits politiques et des conflits thérapeutiques très forts. Mais encore une fois, selon les cas, vous pouvez l'utiliser de manière complémentaire. Vous pouvez, par exemple, dans des pratiques de remédiation cognitive, faire travailler un peu sur les fantasmes et en même temps faire travailler le sujet avec, je sais pas, des trucs de réalité virtuelle, infobique, pour travailler sur les comment dire, j'arrive plus à trouver mes mots, augmenter les degrés d'exposition progressivement.
S'exercer à lutter contre ces phobies.
C'est ce que fait Alan Chan dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois il s'alimente avec la psychanalyse et aussi il s'entraîne à changer ses habitudes avec des pratiques cognitives.
Merci infiniment d'être venu en direct pour justement nous rassembler, partager ces pistes de réflexion sociologique qui nous concernent tous et toute la mécanique des passions. Sous-titré « Cerveau, comportement et société », votre dernier essai vient de paraître aux éditions Odile Jacob qui ont également publié « La fatigue d'être soi » et « La société du malaise ». Merci Alain Renberg.
Merci.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI et sur l'application RFI Pure Radio. Demain, c'est Anne-Cécile Bras que vous retrouverez, amis auditeurs, à ce micro pour C'est pas du vent. Quant à nous, Nicolas Benita à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro. Nous vous donnons rendez-vous lundi pour de nouvelles interrogations à partager ensemble. Merci de votre fidélité, de votre interactivité. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur RFI. File le prochain journal dans une minute.